Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau Radio Campus Bordeaux en direct depuis le cinéma Jean Eustache de Pessac à l'occasion de la 15e édition du festival de cinéma L'Étoile Filante à vivre jusqu'au 3 mars. Au programme de cette émission spéciale, tout d'abord, Victor Courgeon, médiateur culturel au cinéma Jean Eustache, nous présentera le film Penguin Highway de Hiroyasu Ichida. Puis nous recevrons Mats Grorud pour le film Wardy et Arnaud Demuenck pour notamment Les Ritournelles de la Chouette. Et en fin de programme, nous évoquerons Mango de Trevor Hardy, qui était le film d'ouverture. Bonjour Victor.
Bonjour.
Et bonjour Ninon.
Bonjour.
Bonjour Mats, qui est déjà avec nous.
Bonjour.
Bonjour Mats. On va parler avec toi, Victor, du film Penguin Highway, qui était un petit peu l'événement de ce festival, qui reste l'événement parce que le film va être projeté encore plusieurs fois d'ici la fin de la semaine. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu sur ce plateau radio ce film de Hiroyasu Ichida ?
Alors, oui, davantage que l'événement, je dirais que c'est...
C'est un événement.
C'est un événement et c'est aussi l'ovni de cette programmation. Alors un film qui nous vient tout droit du Japon et dont on n'a malheureusement pas le plaisir d'accueillir le réalisateur, contrairement aux autres films en compétition. Mais en même temps, c'est peut-être l'œuvre la plus curieuse, la plus audacieuse et la plus adulte de notre programmation. Pour faire court et pour ne pas trop en dire de l'histoire, on est sur un récit initiatique, l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Aoyama, qui est en CM1, donc il doit avoir autour de 8-9 ans. Et le rêve de ce petit garçon, comme beaucoup d'autres, c'est de devenir un adulte le plus vite possible. Et il compte les jours jusqu'au moment où lui sera un adulte. Il travaille d'arrache-pied. Il y a beaucoup de plans sur ses cahiers, ses dessins, la manière dont il pense, il réfléchit et il calcule le monde qui l'entoure. Et ce petit garçon, qui n'est pas encore un adulte, il est pourtant déjà amoureux d'une femme beaucoup plus âgée que lui, qui est l'assistante de son dentiste. Voilà. Donc déjà, rien que par cette évocation, il y a une bizarrerie scénaristique qui est accentuée tout de suite par l'apparition de pingouins dans cette petite ville japonaise, petite ville pavillonnaire du Japon, où des pingouins font leur apparition de manière assez mystérieuse. Et c'est peut-être le mot qui caractérise le mieux le film, à savoir le mystère. On nous emmène dans une fresque, très drôle, hein, il faut le souligner, mais en même temps avec une énigme extrêmement complexe et dont la résolution est assez époustouflante, j'en dirai rien. Et sur ce voyage que va accomplir Aoyama en compagnie de certains de ses camarades et de cette femme pour laquelle il a une certaine fascination. Et alors on peut rapprocher le film de d'autres animés probablement, mais je préférerais le rapprocher de films en prise de vue réelle. Alors il y a peut-être un petit côté Harold et Maude, donc le film de Al Ashby, dans cette histoire d'amour un peu intergénérationnelle, mais surtout en fait le film, et c'est un autre film américain auquel j'aimerais le rattacher, c'est Interstellar.
Voilà. Carrément,
pour un côté enfin déjà une vraie réflexion sur le temps et sur l'espace. Et je pense que le médium qui est l'animation était peut-être le plus approprié dans ce film pour retranscrire cette histoire que le réalisateur, du coup, dans laquelle il a tous les moyens à disposition pour distordre physiquement et à l'image cet environnement japonais et une temporalité qui est complètement modifiée. Et on voit que du coup l'animation utilise parfois des images de synthèse.
Plusieurs formes d'animation.
Ouais, plusieurs formes d'animation pour donner vie à ces phénomènes quasi paranormaux dans une célébration très nippone de la nature qui entoure les personnages.
Alors la nature est toujours très présente hein, dans le cinéma japonais, notamment dans le cinéma d'animation. On l'a vu avec Miyazaki. Avec aussi Osoda et avec d'autres grands réalisateurs de films d'animation. Qu'est-ce qui fait que ce film-là de Hiroyasu Ichida est particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en film d'animation, selon toi, Victor ?
Je pense que, contrairement au film de Miyazaki, il ne s'inscrit pas du tout dans une forme de nostalgie. Le danger se déplace, parce qu'il y a évidemment quelque chose d'inquiétant toujours dans les films de Miyazaki aussi, mais je trouve que là, on atteint une complexité du récit qui est assez inhabituelle dans un film qu'on qualifierait pour enfants, et c'est pour ça que je parlais d'OVNI dans cette programmation jeune public, parce que Quand on parle de grille de lecture, et c'est une expression qu'on emploie souvent pour parler du cinéma d'animation, à savoir que c'est un film qui s'adresse à toutes les générations, chacune avec un niveau différent, là on a des strates qui sont présentes dès l'écriture et qui en fait incitent directement à revoir le film. Revoir le film pour passer la première vision et quelque chose de très sensoriel, parce que le film nous entraîne et on est dans une forme de voyage en compagnie de ces petits animaux qui sont, il faut dire, très mignons. Il y a ensuite toute une véritable réflexion beaucoup plus complexe et qui appartient beaucoup plus au cinéma de science-fiction et au cinéma de fantasy que à une tradition du cinéma d'animation et d'une certaine douceur qui s'efface petit à petit de Penguin Highway pour aller vers l'extraordinaire.
Tu parlais tout à l'heure de l'animation et que ça permettait peut-être plus de choses qu'un film en prise de vue réelle. Tu penses qu'un film d'animation peut être encore plus créatif dans ce qu'il montre qu'un film en prise de vue réelle ?
Alors, en fait, je pense qu'il le doit. C'est-à-dire qu'un réalisateur, ou en tout cas toute l'équipe d'animation, se doit d'utiliser toutes les potentialités donner à l'expression d'un imaginaire, c'est-à-dire que l'animation n'a de limite que la créativité de son réalisateur ou sa réalisatrice.
On peut tout faire.
On peut tout faire. Après, évidemment, il faut prendre en compte les contraintes budgétaires, et les différents réalisateurs qu'on accueille aux Toiles Filantes nous ont toujours fait part de ça. Et en même temps, pour eux, c'est pas l'animation qui est venue avant le scénario, c'est-à-dire c'est d'abord une histoire. Et ils ont saisi le prisme de l'animation pour la raconter dans toute sa complexité et toute sa fantaisie.
C'est un premier film. Hein.
C'est un premier film qui nous vient du Japon, mais un peu de nulle part. Je crois qu'il est passé à mon premier festival à Paris l'année dernière et qu'il a fait un passage un peu discret par Annecy, mais je comprends pas pourquoi. C'est un des meilleurs films d'animation que j'ai aperçu cette année. Je crois qu'une sortie est programmée, mais pour l'instant sans distributeur, au mois de juillet 2020.
Juin
ou juillet. Ouais. Mais 2020, donc on est dans une méga avant-première, très content de la voir. Et puis, effectivement, c'est assez culotté d'être allé chercher ce film, et je félicite toute la programmation du festival d'avoir fait ça. Rappeler peut-être simplement que le film est une adaptation d'un roman qui est paru au Japon, d'un auteur qui s'appelle Tomihiko Morimi. Le réalisateur s'est imprégné de ce roman, et lui, il y avait plutôt une tradition d'animateur sur d'autres courts-métrages, et je crois qu'il est passé un petit peu par la publicité, mais ça ne se sent pas du tout.
C'est un film en compétition
tout à fait.
Cette année.
Il est en compétition, donc il y a 7 films compétition cette année, et celui-ci, au même titre que les autres, est soumis au regard de tous nos jurys, à la fois adultes et enfants.
Merci beaucoup Victor pour cet éclairage sur Penguin Highway de Hiroyasu Ichida, un film à ne pas manquer lors de cette 15e édition du festival L'Étoile Filante. Tu peux nous dire quel jour il sera diffusé ?
Ce sera vendredi 1er mars à 10h en version originale sous-titrée français.
Merci à toi, et tu restes avec nous te transformer en traducteur. Voilà.
Exactement.
Parce que tu as un anglais bien meilleur que celui de Ninon et de moi-même. Donc ça va toi ? Ah ouais, c'est bien. Moi je vais pas m'y risquer. Je vais poser mes questions en français. Voilà. On va maintenant parler donc du film Wardy de Mats Grorud, qui est un réalisateur et animateur qui nous vient de Norvège. C'est son premier long métrage à Mats Grorud, premier long métrage. Et il s'intéresse à Wardy, qui est une petite fille de 11 ans qui vit au Liban avec sa famille. Elle est palestinienne. Sa vie se passe donc loin de la Palestine. Toute sa famille rêve que d'une chose, c'est de revenir sur les lieux de naissance de cette famille, c'est-à-dire la Palestine. Donc c'est un film plein d'espoir, mais parfois cet espoir est un petit peu vacillant. Mats Grorud, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet bien particulier ?
When I was young, my mother was working as a nurse, infirmière, in Lebanon during the war. When she came back to Norway after working like 3 months in Lebanon and coming back, she would show me and my brother and sister pictures from the camp and pictures of children my age but growing up in war.
Ma mère était infirmière au Liban pendant la guerre. Quand elle revenait en Norvège, elle nous montrait à mes frères et sœurs et à moi des photos d'enfants de notre âge là-bas qui vivaient en temps de guerre dans des camps.
So I think at this age, I was 11, 12, it was important, this affected me a lot, and It's something that has stayed with me since then, actually.
À cet âge-là, j'avais à peu près 11 ou 12 ans. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et en fait qui m'a habité depuis jusqu'à maintenant.
So, in 2001, I had the chance to go to Lebanon and work as a volunteer in the camp.
En 2001, j'ai eu la chance de partir au Liban et de travailler comme volontaire international dans un camp.
Before I came to the camp, I had the idea that it was a very depressing place and you know, a lot of sadness in the camp.
Et avant d'y aller, moi je pensais que c'était un endroit qui allait être très déprimant, empreint de beaucoup de tristesse.
But I got good friends and what I found out was that my friends were very intelligent, very poetic at times, warm, and they opened up to me and shared their lives and their stories with me. So I found that reality was quite different from what I thought it would be.
Mais en arrivant là-bas, je me suis fait des amis et en fait, je me suis rapidement rendu compte que ces gens étaient intelligents, joyeux, poétiques à certains moments.
And very funny.
Voilà, et très drôle.
So I wanted to show this different picture of what it means to be a refugee and to break the stereotype of, you know, the sad refugee, because people are people in the end.
Et du coup, ça a changé ma vision des choses et j'ai voulu du coup casser cette image de réfugié triste et montrer que ces gens pouvaient être tout aussi joyeux que nous.
So, in the film, it's about hope and it's a hope despite, you know, it's the hope and the will to live that people have despite everything that's difficult.
C'est un film sur l'espoir, un espoir quelque peu malgré lui, un espoir compliqué et courageux que ces gens conservent malgré tout ce qu'ils endurent.
So I hope, you know, this is a Palestinian story, but when we have shown the film, I find out that it affects people in many ways, because people in France or Norway or wherever people live, people face different kinds of troubles, and so in the end, the film is about hope.
Le film est avant tout une histoire palestinienne, mais je me rends compte qu'il a pu toucher les gens, que ce soit en France ou ailleurs, de bien des manières. Avant tout, c'est une histoire d'espoir.
Alors, on peut resituer peut-être aussi historiquement ce film, puisqu'il parle de la Nakba, qui est l'exode palestinien après la création de l'État d'Israël à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était important pour vous, Matt Groroud, de parler de cette histoire pour faire connaître peut-être ces faits historiques à un public qui ne le connaîtrait pas.
Yes, I think historic and to know the context and to know history is important to understand, you know, what's happening in the present. For example, like in Gaza, when you see people demonstrating and throwing stones, like in the summer, and it's easy for people in Europe to just we don't understand. It's just violence, people throwing stones, and it just seems like a never-ending story of violence, and we don't understand why.
Je pense que connaître l'histoire, connaître le contexte, c'est extrêmement important pour aborder les faits actuels. Si on prend par exemple les habitants de Gaza qui lancent des pierres et se révoltent, comme ça a été le cas l'été dernier, sans contexte, d'un point de vue européen, on pourrait se dire que ce ne sont là que des simples éclats de violence. Et c'est pour ça qu'il y a un profond besoin de recontextualiser et de faire appel à l'histoire.
Because the camps in Gaza, they exist exactly from the same time as the camps in Lebanon, which is 1948. These camps have been there for 71 years. So for me, knowing this history, it's not very... You understand why people are angry.
Les camps qui se trouvent à Gaza... existe depuis aussi longtemps que les camps du Liban, c'est-à-dire depuis 1948. Ça fait plus de 71 ans que ces camps sont là. Et du coup, il faut connaître l'histoire pour comprendre la colère de ces gens.
Like with Syria or Yugoslavia, I don't have the same knowledge about history, which means that when I just see pictures of violence on the TV, I don't understand exactly why it's happening. And it also makes it difficult for me to have a response. I don't know what to feel. It's just chaotic, you know? So you need to understand the past to know what's going on today, to have, you know, a reaction.
De la même manière, pour la Yougoslavie ou la Syrie, je n'ai pas vraiment de profonde connaissance historique de ce qui a pu se passer là-bas. Et quand je vois les images qui viennent de là-bas, je ne comprends pas tout à fait ce qui se passe et je ne peux pas avoir de réponse. C'est pourquoi il faut constamment avoir ces connaissances historiques pour mieux comprendre la situation présente.
On a last note, I think in Europe, it's very easy that people, when it's about the Middle East and it's about Palestine and Israel, people very quickly like, oh, I don't understand, I don't have an opinion. And to me, so it's important to understand why and what's happening and what has happened.
Une dernière chose que je voudrais ajouter, du point de vue européen, il est assez facile et assez rapidement, on prétend, ou plutôt on déclare, ne pas comprendre, ne pas saisir exactement ce qui se passe au Moyen-Orient, particulièrement autour des questions israéliennes et palestiniennes. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut expliquer encore et toujours et faire appel à l'histoire.
So, for example, with apartheid, who in Europe today would say, oh, I don't have an opinion about the civil rights movement in America? Nobody will say in Europe, like, oh, I don't have an opinion. It's so complicated. No.
Si on prend l'exemple de l'apartheid, par exemple, aux États-Unis, qui aujourd'hui, en Europe, déclarerait, non, je n'ai pas d'opinion à ce sujet-là. Personne ne le ferait, parce que les gens savent ce qu'est l'apartheid.
Est-ce que c'est un choix de vous être dirigé vers l'animation pour expliquer au plus grand nombre, aux petits comme aux grands, ce qui se passe là-bas ?
I think the power of animation is, okay, one, we want to break the stereotypes. And I think when you have an abstraction, you have a marionette, you have a drawing, it's more easy for people that see the film, like in France, to relate to the film, that it's not just a story about them, it's a story about us. Because you see the main character in the film, Wardi, and she could be your little sister.
Alors, une chose importante par rapport au pouvoir de l'animation, c'est d'abord de déconstruire des stéréotypes. C'est-à-dire qu'utiliser des marionnettes ou des figurines, ça permet une identification beaucoup plus forte, notamment par exemple en France vis-à-vis de cette situation, et de dire, de transposer des figures connues dans les personnages. De dire par exemple, Wardi pourrait être ma petite sœur.
I think animation has this power. I also think that you can show things with drawings and marionettes that are difficult to show with live action, because if it's too tough and too hard, people defend themselves and you don't feel anything because it's just terrible. But when you have a drawing or a marionette, somehow you keep like a little door, you know, the door to your heart is still open, so you allow yourself to feel. And I think then that animation, for example, for children or younger audience, it allows them to feel something about a difficult subject and have a reaction, you know, without being traumatized. You know, you can take it in more easily.
C'est donc un des pouvoirs de l'animation. Et par ailleurs, je pense que la capacité qu'ont les dessins ou les marionnettes de transposer des scènes d'une certaine violence est admirable. D'une certaine façon, lorsqu'on est exposé à des scènes en prise de vue réelle qui sont violentes, on a tendance à se fermer, alors que dans le cas de l'animation, on va rester ouvert aux sentiments qu'on peut éprouver. Notre cœur peut rester ouvert, et c'est particulièrement vrai pour le jeune public qui, du coup, peut être confronté à des situations dans toute leur violence sans pour autant être traumatisé.
Et justement, pourquoi ce choix esthétique sur les diverses techniques employées, marionnettes, dessins, 3D, les photos, même des images d'archives de la télé ?
Mmh. For the volume, pour moi, c'est très, très réel. C'est tactile. It's, you know, so it's, to me, volume, it's like very, it was a natural choice to represent reality, what is happening today with the volume.
Bah pour moi, le volume, c'est quelque chose de très tactile, de très réel. C'est un choix naturel qui s'est fait pour représenter la situation.
Ouais. Pour le 2D, for the flashbacks, historic flashbacks, you know, it's a lot of different scenes in the film, from the camp, from the corniche in Beirut, a lot of people. To do this with volume, with puppets, it's quite expensive and it takes a lot of time. So in the beginning, it was a practical choice. Okay. How do we tell the story we want to tell in the best way? And we thought, okay, you do some part in volume and some part in 2D.
Alors pour les scènes plus historiques, pour les flashbacks qui sont réalisés en 2D, qui sont des dessins, ce sont des scènes qui représentent des situations très diverses avec beaucoup de décors, de nombreux personnages. Et de manière très pratique, ces scènes auraient été beaucoup trop coûteuses à faire en volume. Et donc quand on s'est posé la question de quel serait le meilleur moyen de les représenter, on s'est tourné assez naturellement vers le dessin.
Et ça marche.
Yeah. And for the real photos and the real the live action, the video footage in the film, it's to remind the audience and that you know what you see with the puppets and the marionettes and the 2D, it's real.
It's real, yeah.
And I wanted to put it inside the film to have the response, the emotional response from the audience while they're watching the film and not after.
Quant aux photos et aux extraits vidéo qu'on peut apercevoir dans le film, c'est une manière de rappeler que tout ce qui est montré via les marionnettes, etc., ce sont des situations qui étaient réelles. L'idée, c'était de créer de l'émotion pendant que les gens voyaient le film et pas après, en leur montrant ses photos et ses extraits vidéo.
Il y a quelque chose de très marquant. Alors, on a parlé des marionnettes, du dessin animé, de toutes ces techniques d'animation. Mais ce qui m'a marqué le plus, moi, ce que je trouve encore de plus réussi que tout le reste, ce sont les décors qui sont hallucinants. Le travail sur les décors est très, très minutieux. Et surtout, ce qui frappe, c'est cette verticalité du décor qui est sur plusieurs étages. Je ne sais pas comment c'est exactement à Beyrouth en ce moment. Est-ce que c'est comme ça exactement? Et est-ce que ça traduit aussi, justement, ces différentes générations qu'on voit dans le film, puisqu'on est avec une famille où il y a quatre générations qui se côtoient, qui habitent dans le même quartier? Et donc cette verticalité, est-ce qu'on peut en parler?
The international title for the film is The Tower, El Buruj. So the tower is a central, not just a symbol, because it's reality. The camps cannot grow sideways. So when there's a new generation, the only space left for the people in the camp is to build up.
Alors le titre international et original du film, c'est La Tour. Et en fait, ce n'est pas uniquement un symbole, c'est aussi la réalité de la situation géographique de ces camps, c'est-à-dire que ces camps ne peuvent pas s'étendre horizontalement, ils sont donc obligés de s'élever, et à mesure que les générations arrivent, les tours se construisent et vont de plus en plus haut.
I worked with the French team, with Foliascope, in an animation company in Valence, and I had lots and lots and lots of pictures from the camp, how it looked, everything, so that the team really could be quite specific in the details and the representation of the camp. So this was important. Yeah.
J'ai travaillé avec une équipe française, Foliscope, basée à Valence. Et afin que les décors soient le plus réalistes possible, je leur avais apporté beaucoup de matériel, des photos pour qu'ils se rendent compte de la situation et la retranscrivent de la manière la plus réaliste possible dans la construction des décors.
Ce qui m'a beaucoup plu également dans ce film-là, c'est ce personnage qui élève des pigeons tout en haut, mais alors vraiment tout en haut de la tour, donc. Et est-ce qu'on peut parler de ce personnage qui est très poétique et avec ses pigeons qui symbolisent aussi ses rêves et un espoir aussi.
Ah, Pigeon Boy.
Yeah. Yes.
Okay, so when I write the story, it's based on my interviews and my talks with my friends. And when I mentioned earlier that my friends are poetic, many times they would talk about their lives in poetic ways. Which is about the past, the present, and the future. Which is about how the dreams are sleeping. So many of, you know, I wanted to use exactly this language for the film. And I also thought, but you know, this is not going to work with live action, but with marionette, you know, there's different rules, I think, so that the puppets can say these kind of things that you have in the film, like so the character of Pigeon Boy is, you know. Based on my friends and how they describe their lives.
Le film a été écrit à partir d'entretiens que j'ai eus avec mes amis là-bas. Et quand je disais que mes amis étaient poétiques, ils le sont vraiment. Et quand eux me racontent la situation qu'ils vivent là-bas, ils le font de manière très poétique, en me parlant de ces rêves qui dorment, etc. J'ai donc décidé, et je pense que c'est aussi la capacité du travail avec la marionnette, de retranscrire cette dimension poétique de la manière la plus fidèle possible.
But also like, like the vertical construction of the camp. Also on all the rooftops, you have pigeon boys that have pigeons. It's not peace pigeons, it's homing pigeons. So it's pigeons that always come back to the roof and they know always where home is.
On parlait de la verticalité du film et des camps. Et il faut dire qu'au sommet de chaque tour, il y a en effet un pigeonnier. Et ce sont des pigeons assez particuliers puisque ce sont des pigeons qui reviennent et qui vont manger toujours au même endroit et qui ne s'échappent pas. Et donc ça fait partie aussi de la vie des camps que je dépeins.
C'est aussi un film sur la transmission. Hein. On transmet cet espoir donc de génération en génération avec un lien tout particulier qui unit un arrière-grand-père avec son arrière-petite-fille. Donc c'est Wardy, hein, le personnage de la petite-fille, qui est le titre chez nous du film. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce lien particulier entre ces extrêmes au niveau générationnel?
So, in the film, the name Wardy, it means rose. So the great-grandfather gives, he's the one that gave the name to the small girl. So it's a link between the past, you know, the land of Palestine and the flowers and everything that was beautiful in the land. And he, so her name is also transmission of, you know, the past, and she is the future.
Le nom Wardi signifie rose en arabe, et ce nom, c'est son grand-père qui lui a donné. Et c'est une manière de créer du lien entre le passé et le futur, ce passé qui était une Palestine fleurie, avec tout l'attachement que ce personnage a à la végétation, et un futur qui est représenté par cette petite fille.
And I think in the camp, when you have nothing, identity is very, very, very important. Like you are somebody, you have a history, you come from somewhere, and you have rights. So, the right of return for the Palestinians and where they come from in Palestine is very important.
Quand vous n'avez rien, votre identité est très importante. Qui vous êtes, où vous habitez, d'où vous venez. Et c'est pourquoi la notion de droit du retour est quelque chose qui tient énormément à cœur à ces Palestiniens qui vivent dans les camps.
If you ask any child in the camp where they're from, they will ask, you know, they will answer Palestine. But not only will they know which country they come from, but they will also know from which village, from Kabri, Kouiket, Tarshiha, Akka, Haifa. So each child will know, you know, exactly the village that their great-grandparents had to escape from.
Si vous demandez aux enfants des camps, bien sûr, ils vous diront qu'ils viennent de Palestine. Mais vous diront beaucoup plus que cela, puisqu'ils sauront vous dire exactement d'où ils viennent en Palestine et vous citeront avec beaucoup de précision le nom de leur village.
You know, people in the camp just want to live. That's it. So it's about education for the children. It's about, you know, it's about the future of this new generation. And the hope to return, it's a long distance hope. The more immediate hopes, it's about, you know, to find a life. So the right to return is important as identity, but in the end, you know, what people want, it's to finish school, get a job and feed their children and have a normal life just like us.
Vous savez, l'espoir de ces gens et leur rêve, c'est avant tout de vivre normalement, de pouvoir élever leurs enfants, terminer leurs études, nourrir leur famille. Et cette question de droit du retour et cette volonté de retour est quand même quelque chose de beaucoup plus lointain. Et qui du coup se transmettra de génération en génération, mais pour l'heure, leur principale préoccupation, c'est de vivre normalement.
Et c'est symbolisé par la clé que donne l'arrière-grand-père à Wardi.
Oui, in all the families, people have the keys and they have the papers to that they own the land and the houses. So it's not just a symbol; it's real. It's reality. You know, it's real. People have this in the camps.
Oui, oui, en effet. Et dans les camps, tous les gens ont cette clé. De leur maison, et ils vont même jusqu'à avoir le certificat de propriété des terrains et habitations qu'ils avaient quand ils étaient en Palestine.
So it's not just a symbol.
Ah oui, donc c'est pas uniquement symbolique cette clé, c'est quelque chose de très concret.
Ce film m'a fait penser aussi à un autre film qu'on avait pu voir justement au Festival du film d'histoire ici à Pessac, c'était L'insulte de Ziad Doueiri, qui parlait aussi d'un Palestinien qui avait des problèmes, notamment au Liban. Est-ce que vous avez vu ce film de Ziad Doueiri?
Unfortunately not. It's non. On my to-do list.
Malheureusement, non, je ne l'ai pas vu. C'est sur ma to-do list.
Mais voilà, ben, à voir. Mais merci beaucoup, Mats Grorud, d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Et tout de suite, on va recevoir un autre réalisateur de films d'animation, Arnaud Demouenc, et il va nous parler notamment de son programme de court-métrage Les Ritournelles de la Chouette. On l'accueille tout de suite sur le plateau Radio Campus. Arnaud Demouenc, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur ce plateau à Radio Campus Bordeaux, dans le cadre, je le rappelle, de la 15e édition du festival APESAC au cinéma Jean Eustache, L'Étoile Filante, cinéma d'animation, de film d'animation, mais pas que, plutôt destiné à un jeune public. Et là, on va parler de jeune public avec vous, puisque vous venez présenter deux programmes de courts-métrages lors de cette édition du Festival L'Étoile Filante. Il s'agit des Ritournelles de la Chouette et du programme Loup Tendre et Loufoque, qui lui est en compétition. C'est bien ça. J'ai tout juste.
Ça aujourd'hui, oui.
J'ai tout juste.
Oui.
Ouais, c'est ça. Allez, on va parler un petit peu de vous, de votre parcours. Vous êtes réalisateur, scénariste, producteur. Comment on arrive à jongler avec toutes ces casquettes?
Au départ, je suis scénariste, j'ai envie de dire, de formation et de passion. J'ai rencontré des cinéastes quand j'étais jeune qui m'avaient demandé de les aider à monter leurs films, et je suis devenu leur producteur d'abord par amitié. Puis j'ai trouvé ça assez pratique de pouvoir produire ses propres scénarios en film. parce que ça fait un chaînon de moins à convaincre, comme c'est assez compliqué comme métier. Voilà, et je suis resté dans le bain à écrire, à réaliser, à produire. Voilà.
Et pourquoi alors produire des films à destination d'un jeune public ? C'est quoi qui vous inspire dans cette catégorie-là, si on peut dire catégorie ?
Alors c'est assez simple, pendant des années j'ai plutôt écrit des films pour adultes, pour jeunes adultes, et quand je suis devenu papa il y a 11 ans, j'étais baigné dans la littérature jeunesse, parce que tous les jours, tous les soirs, on racontait des histoires à notre fille Lily, et donc en tant qu'auteur, j'ai été contaminé positivement par cette ambiance très colorée. J'écrivais plutôt en noir et blanc, plutôt gravité, et j'ai été contaminé par la poésie, l'humour, la légèreté, tout en pouvant aborder des vrais sujets qui sont importants pour les enfants et pour la société, mais avec un prisme qui fait qu'ils ont une écoute. Et donc j'ai adoré découvrir cet univers-là et j'ai commencé à écrire pour ma fille des premières histoires. Et j'ai continué du coup en tant que producteur, scénariste et réalisateur.
Moi, en voyant Loup tendre et Loufoque, ça m'a quand même ému parce que quand j'étais petite, mes parents me disaient « c'est moi le plus fort et c'est moi le plus beau » et même « Le retour du grand méchant loup ». Comment vous avez fait pour être aussi proche des livres ? Vous avez fait appel aux auteurs des livres ou vous avez repris ?«
C'est moi le plus fort et c'est moi le plus beau », c'est deux livres de Mario Ramos, qui est un auteur belge qui est décédé depuis il y a 5 ans. Donc j'ai pas pu faire appel à lui. Donc effectivement, la question était être au plus près de l'œuvre écrite pour ne pas, et dessinée, pour ne pas trahir, parce que je pouvais pas lui demander. Par exemple, le film « Grand loup et petit loup » qui est adapté d'un livre de Lyotel par Rémi Durin. Là, Rémi avait l'occasion de demander à l'auteur éventuellement ce qu'il pensait de son adaptation. Moi, pas. Donc, il y a encore des ayants droit, il y a la femme de Mario Ramos. Mais j'ai surtout, avec Anaïs Sorrentino, avec qui j'ai fait ce film, je lui ai demandé d'être au plus proche du style graphique de Mario.
Ah. Oui, parce que moi, en le voyant, j'avais vraiment l'impression que le livre s'était mis...
C'est animé, quoi.
Ah oui,
exactement. Mais par contre, ce qui est très différent d'un livre, c'est qu'on rajoute des voix au personnage, on rajoute de la musique, des ambiances. Et donc là, il a fallu trouver les bonnes voix pour créer cette dynamique extraordinaire qu'il y a dans ces livres, et aussi l'humour. Et donc, j'ai trouvé la voix de Christian Léonard, qui est à la fois très grave, qui peut faire peur, qui peut être très, très chargée, mais qui en même temps est très chaude, très chaleureuse et très douce, et peut faire rire. Et donc ce loup a cette ambivalence de je fais peur et je suis un peu ridicule et en même temps je suis attendrissant, et ça donne énormément de charme au film comme il y en a dans les livres. Et ce sont des livres très courts et j'ai voulu des films très courts aussi pour être dans la même dynamique de ces albums. Alors que Grand loup et petit loup, qui contient en soi plus de mélancolie, plus de moments d'introspection, le réalisateur a fait un film beaucoup plus long de 14 minutes pour justement donner de l'air à ce film, comme il peut y en avoir dans le livre quand on le lit.
C'est des programmes de courts-métrages, donc il y a à peu près 4-5 courts-métrages.
Alors, dans les Ritournelles de la Chouette, il y a 5 courts-métrages. Dans Loup tendre et Loufoque, il y en a 6.
Et est-ce qu'on peut présenter alors ce concept un peu de la chouette ?
Oui, absolument. Alors, un de mes premiers programmes de courts-métrages s'appelle Le parfum de la carotte. Et je l'ai beaucoup accompagné dans les salles et je me suis rendu compte que le public était très sensible à cette petite parole qu'un réalisateur vient donner aussi. Pourquoi j'ai fait ce film, ce que j'ai voulu dire. Évidemment, on ne peut pas du tout accompagner autant qu'on veut les séances. Il y a beaucoup plus de séances que notre présence physique peut le permettre. Et donc, j'ai pensé créer une sorte d'alter ego, une petite ambassadrice.
C'est vous la chouette, alors.
Voilà, c'est moi, ce n'est pas ma voix, c'est la voix de mon épouse, Laurence Dédier. Mais c'est mon alter ego, c'est-à-dire que dans ce qu'elle dit, c'est ce que moi j'écris. Et c'est pourquoi je fais les films. Et elle fait le lien, elle est ambassadrice. Ça fait 25 ans que je fais du court-métrage. Je suis passionné par ce format qui permet beaucoup de liberté de créativité. Et donc, elle vient présenter une séance qui a sa cohérence, qui a son fil rouge. Et entre chaque film, elle vient reparler aux enfants. Et les enfants, non seulement ça leur donne des petites clés de lecture, mais entre chaque film, ça leur fait un temps de repos, un temps de changement, un temps de reconcentration pour passer dans un nouvel univers. Ce qui fait que ce sont des programmes à la fois très cohérents dans leur unité et très changeants et très. Qui offrent des multiples aventures, des multiples graphismes.
Donc cette chouette, elle nous raconte un peu comment ça a été fait aussi, quelle est l'idée originelle des courts-métrages qu'on va voir, puisqu'elle nous dit que souvent c'est adapté de contes traditionnels, mais en fait l'incursion de cette chouette pourrait faire penser à des fables aussi.
Oui, alors la chouette en tant que personnage, pour moi, elle est inspirée de la chouette traditionnelle qui était le symbole de la sagesse dans la Grèce antique. C'était l'animal totem d'Athéna, la déesse d'Athènes, et elle représentait la sagesse à l'époque. Et donc, on l'a dessinée en fonction d'une petite statuette, une petite sculpture en terre cuite qui était une fiole de parfum qui était au Louvre. Donc, elle a vraiment un passé et elle a un sens de j'ai quelque chose à venir vous raconter. Comme dans les fables, on a souvent quelque chose à raconter, un sens profond. Et moi, en tant qu'auteur, je m'inspire beaucoup de la tradition orale parce que je crois que le cinéma aujourd'hui peut, de manière différente que les Disney, même si ce n'est pas du tout pour critiquer l'un ou l'autre, mais peut apporter aux enfants des histoires traditionnelles qui ont toujours été importantes, qui le sont encore aujourd'hui, mais en les adaptant, comme la Tortue d'Or, par exemple, dans le programme des Ritournelles. Il y a tout un élément écologique, environnemental, qui est présent, mais qui n'était pas présent du tout dans le conte d'origine qui a été recueilli en 1850 par Afanassiev, un historien russe. Et donc, voilà, aujourd'hui, adapter ces histoires permet encore de véhiculer des valeurs qui, en fait, font notre société.
Il y a aussi ce recours, assez souvent, dans les films d'animation pour jeunes publics, ce recours aux animaux, pour nous symboliser. Et j'étais en train de me faire la réflexion, justement, quand je regardais le programme Les Ritournelles de la Chouette, avec les deux premiers, c'est un travail de fourmi, et ensuite on a l'arbre à grosse voix. Et elle m'a court-circuité, cette chouette, en me disant que, effectivement, souvent on avait recours aux animaux, mais qu'on pouvait aussi raconter aux enfants des contes traditionnels en dessinant aussi des humains.
Elle est là pour ça, justement, pour venir aiguiller un petit peu, pour venir créer des surprises. Et c'est vrai que dans l'arbre à grosse voix, la tortue représente la sagesse. Et puis du coup, la chouette dit, mais les enfants, pourquoi est-ce que des adultes, des êtres humains ne pourraient pas aussi représenter la sagesse? Et donc, on passe du coup dans une réflexion supérieure. On passe d'ailleurs dans un sujet qui a un peu plus de gravité et de profondeur, si on peut dire. Et l'être humain est de plus en plus présent dans le programme, puisque le quatrième film, qui est l'humble tailleur de pierre, il n'y a plus que des humains.
Et vous, alors, vous préférez mettre en scène des animaux ou des humains, alors, pour raconter des histoires aux enfants?
C'est très variable en fonction de ce qu'on veut dire. C'est que les enfants sont très en empathie avec les animaux. Ils se sentent beaucoup plus proches.
Comment on peut expliquer cette empathie que les enfants ont pour les animaux? Parce que c'est fou. Moi, j'ai un petit neveu, là, il a 4 ans. Il est fou des animaux. Il connaît tous les oiseaux par cœur. Il a toujours cet intérêt tout particulier vers les animaux.
Les enfants sont très ouverts sur le monde. Ils sont dans la découverte permanente de leur environnement. Et donc, les animaux ont une magie, enfin, représentent quelque chose de magique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faudrait faire attention à ce qu'il en est encore que dans une dizaine d'années. Et bon, en même temps, on projette en tant qu'auteur les défauts humains dans nos personnages animaux. Par exemple, Mario Ramos, il fait ça très bien dans C'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau. Nos défauts ou qualités humaines, il les transmet à travers un personnage qui crée du coup une distance et un regard qu'on peut porter sur nous à travers lui. C'est assez magique, voilà, c'est la magie du cinéma, c'est la magie de la représentation, de la fiction, et les enfants sont très en demande de merveilleux pour finalement entendre des choses qui les concernent dans le réel.
Et dans le programme Loup tendre et loufoque, on comprend bien tout l'intérêt de défendre le loup.
Oui, alors la chouette du cinéma a eu envie dans ce programme d'interroger la figure du loup, qui est très présent dans l'univers des enfants, littérature, contes et dans notre histoire, avec une certaine forme de figure qui peut être violente, qui méchante, peut faire peur, méchante, perverse, et qui est traditionnelle. Et tout doucement, aujourd'hui, on se rend compte dans la littérature jeunesse que ce loup a aussi des figures plus sentimentales, plus affectives. Donc elle a interrogé ce parcours-là, tout en finissant par une chanson et par une image, la dernière image du film, du programme, c'est un louveteau dessiné au crayon qui regarde droit dans les yeux des enfants dans la salle, parce que ce loup est aussi un animal réel, écologiquement nécessaire et qui revient dans nos contrées. Et donc ce programme finalement invite les enfants à regarder le loup aujourd'hui dans notre environnement en lui disant il faut le protéger, il a sa place à prendre ici.
Ce qui est marquant dans la construction de vos courts-métrages et des courts-métrages qui sont réalisés aussi par vos collègues, c'est le côté répétitif de l'action.
Alors, la ritournelle est vraiment un hommage à cette structure du conte oral, parce que la répétition sous forme de ritournelle, comme dans les chansons, c'est d'ailleurs pour faire du refrain. Ça rassure les enfants parce qu'on est dans une répétition, mais ça les titille aussi parce qu'il y a chaque fois des petites variations qui va inéluctablement vers une surprise, vers une fin, vers une chute. Et en même temps, c'est dans la tradition orale aussi un moyen mnémotechnique. Et donc j'ai voulu conserver ces éléments-là puisque je suis beaucoup inspiré par la tradition populaire orale. Et donc j'ai inscrit dans ces films cette structure-là. Et c'est pour ça que ça s'appelle Les Ritournelles de la Chouette. Mais c'est vrai que dans les films de Loup tendre et loufoque, on retrouve dans les livres de Mario Ramos ce cycle. On rencontre une personne, puis une autre, et chaque fois il se passe quelque chose et ça se construit progressivement. C'est en fait, les enfants, ils adorent la répétition. Hein, donc dans les histoires, quand on utilise ça, ils sont attachés.
On le disait au début de l'interview, vous êtes réalisateur, scénariste et producteur. Quel est votre rôle préféré? Alors si vous en avez un, ou alors c'est égal?
Alors, c'est pas égal, parce que producteur, c'est très désagréable, il faut bien le faire. La réalisation, j'aime bien, mais en fait, ce que je préfère, c'est écrire une histoire, la découvrir, soudainement avoir une envie de raconter une histoire, et de réussir à la mettre sous forme scénaristique, et ensuite, je peux la transmettre à un autre réalisateur ou une autre réalisatrice. Ce que j'aime bien faire dans cette transmission, c'est quand même garder la direction artistique des voix, c'est-à-dire faire le casting et diriger les enfants. J'adore diriger les comédiens, j'adore diriger les enfants. Et donc très souvent, j'écris le scénario, j'enregistre les voix et je confie le tout à une réalisatrice comme Anaïs Sorrentino pour les films de Mario Ramos ou à d'autres réalisateurs qui, eux, après, se réapproprient ce que je leur propose en voix et en scénario et font leur mise en scène.
J'ai l'impression aussi que vous êtes attaché à une dimension un peu familiale dans votre travail, puisque vous faites intervenir votre femme, mais aussi votre fille, non ?
Oui, oui. Lily, depuis qu'elle a 4 ans et demi, depuis les premiers programmes de La Chouette, elle fait des voix. C'est un grand plaisir parce qu'évidemment, les voix d'enfants ont une magie, ont une force qu'on perd quand on devient adulte. Et tout le monde est touché par les voix d'enfants. Et donc, j'ai commencé avec Lily quand elle avait 4 ans et demi. Je l'ai commencé à la maison. C'est difficile d'amener des enfants dans un studio. C'est impressionnant, un studio avec des micros et des machines et des gens et tout ça. Et donc, l'ingénieur du son venait à la maison avec son micro et discrètement, et on travaillait. Elle se rendait à peine compte qu'elle était enregistrée, d'ailleurs. Et donc, j'ai affiné cette technique-là grâce à ma fille. Et puis, c'est vrai que cette chouette... que mon épouse donne sa voix. Oui, c'est des films familiaux. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir en novembre qui s'appelle Zibilin, où Lily fait une petite zébrelle et les parents sont incarnés par mon épouse et moi. Voilà, on est vraiment en famille. Ça permet de parler de ça à la maison, de répéter, d'être en douceur dans le travail.
Et que ça soit plus naturel, peut-être.
Mais c'est vrai que on développe du coup un talent en interne qu'on communique avec d'autres comédiens qu'on trouve. Parce que il y a Lily, mais il y a ses amis de sa classe. Il y a un atelier théâtre dans son école, l'école du centre à Uccle. Il y a un atelier théâtre. Du coup, je vais voir la prof qui elle fait une voix aussi dans un film et qui amène des enfants. Et donc on est dans un rapport. Bon, bien sûr, c'est pas encore un métier à cet âge-là pour les enfants. Donc on est dans un rapport de plaisir, de découverte et d'expérimentation. Et ça crée une atmosphère très très belle, ça se ressent dans les films évidemment.
Il y a une dimension éducative dans ces programmes, je trouve, de court-métrage. L'éducation justement de valeurs, d'essayer de partager des valeurs humanitaires assez fortes. Est-ce que ces films peuvent être vus aussi comme quelque chose de complémentaire à l'éducation familiale ?
C'est vrai que la chouette du cinéma, elle a des choses à dire, elle a des idées, elle n'est pas là uniquement, elle n'est pas là gratuitement, même s'il y a du divertissement, qu'il y a du plaisir et de l'humour. Mais oui, je crois que les histoires de tout temps, la fiction a structuré la société humaine depuis la nuit des temps. C'est en se racontant des histoires qu'on partage et qu'on prend conscience aussi de ce qui nous réunit, de ce pourquoi on vit, de ce pourquoi on est prêt à se battre aussi. Et donc, que ce soit l'histoire à travers un conte oral, un livre, un film, eh bien, c'est ce qui nous réunit. Et la salle de cinéma, pour ça, est assez magique puisqu'on se réunit dans le noir, dans cette salle obscure, et donc il y a une sorte d'intimité, on a un partage, et cette chouette qui interpelle depuis l'écran son public, eh bien elle est dans ce partage, elle est dans cette invitation à vivre ensemble des histoires qui véhiculent des valeurs, des idées qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Donc oui, il y a un pan d'éducation, là, que ce soit des parents, des grands-parents, des enseignants, je les vois sortir quand ils sont à ma rencontre et ils disent ah c'est chouette, ça change ce qu'on voit d'habitude, et on peut en parler après. C'est pour ça que j'ai des petits livres aussi, parce que les DVD sortent très tard après les films. Et donc le livre permet de revenir à la maison très vite et relire l'histoire de l'arbre à grosse voix ou aller chercher un Mario Ramos et de repartager du coup en intimité avec ses parents, avec ses enfants, avec ses amis. Voilà, oui, il y a une vertu éducative. Et puis aussi, la chouette, elle aime bien faire des making-of. Souvent, les programmes sont accompagnés d'un petit making-of sur un métier du cinéma. Elle aime bien expliquer aussi comment on fait des films, parce que je crois que les enfants peuvent comprendre que ces films sont aussi des fabrications, c'est des fictions, et ça participe à un ensemble.
C'est l'éducation à l'image.
C'est l'éducation à l'image. Bon, ces films sont dans cette transmission et profitent de cette éducation à l'image aussi, parce que ça fait 30, 40 ans, même plus qu'en France, il y a cette éducation à l'image. Et du coup, il y a des parents curieux, il y a des enseignants qui ont cette tradition-là, il y a des enfants qui sont initiés au cinéma pour partager.
Et vous, personnellement, le fait de venir comme ça dans un festival jeune public, c'est l'occasion, je suppose, j'en suis sûr même, de rencontrer votre public. Comment ça se passe alors pour vous, ces particuliers, ces moments ?
C'est très important, d'autant plus que voilà, ma fille maintenant, elle va avoir 12 ans bientôt. Et écrire pour les enfants, si on ne reste pas en contact avec eux, c'est très compliqué parce qu'ils ont une façon d'être, de recevoir le monde qui est bien propre à leur âge. Et en tant qu'adulte, on l'oublie, on le perd. On a tendance à prendre de la distance avec cette naïveté qui n'est pas la naïveté, qui est une autre forme de lucidité, une façon de recevoir le monde. Et donc, quand je rencontre mon public après les films ou avant les films et que je sens leur réaction, je dis « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans. Ah oui, c'est ainsi qu'il réagit, qu'il pense, qu'il est sensible. » Et donc, je peux repartir chez moi pour leur réécrire une histoire. J'ai de nouveau, j'ai été ressourcé, en fait. Donc, c'est vrai que rencontrer mon public, c'est me ressourcer.
Merci beaucoup, Arnaud de Moins, qu'on va vous souhaiter bonne chance, hein, puisque votre film est en compétition.
Oui.
C'est important pour vous, la compétition ou...
Je ne le savais même pas, je l'ai appris aujourd'hui. Donc, c'est pas si important. Bah, une fois qu'on y est, on est titillé. Mais l'important, c'est que les gens voient les films.
D'accord. Mais merci beaucoup d'être venu nous en parler au micro
merci
de Radio
vous,
Campus
plaisir.
Bordeaux. Et à bientôt, j'espère. On va continuer à parler du festival L'Étoile Filante avec Victor notamment et Ninon. Victor qui vient de revenir derrière les micros de notre studio mobile puisqu'on est installé dans le hall du cinéma Jean Eustache. On va parler du film Mango de Trevor Hardy qui faisait l'ouverture. C'est aussi de l'animation en volume, on parlait de Hardy tout à l'heure, sur le thème du sport puisque, on le rappelle aussi, ce festival L'Étoile Filante a un thème chaque année et cette année c'est le sport. Mango, c'était l'occasion justement mais de parler de sport, mais pas que de sport.
Alors non, c'est un film qui mélange trois univers bien distincts et bon, c'était une très belle opportunité que le film sorte au même moment que L'Étoile Filante et qu'il soit sur le thème. Donc cette histoire d'une jeune taupe nommée Mango qui vit dans un environnement minier anglais comme on a pu le voir dépeint dans des films comme Les Virtuoses par exemple, donc qui par héritage familial doit aller travailler à la mine, mais son rêve à lui c'est de devenir une star de foot et d'intégrer l'équipe d'Angleterre pour le mondial de football. Mélangé à tout ça, on a un univers et un récit à la James Bond, ce qui fait qu'on combine en fait trois références typiquement british. D'un côté le football, de l'autre l'environnement minier avec toutes ses revendications sociales, et au milieu de tout ça, un environnement d'agent secret, enfin un style d'agent secret avec tous ses gadgets, péripéties et grands méchants.
Alors moi j'ai même pensé à Star Wars à plusieurs moments du film. Je vais peut-être t'étonner Victor, mais justement quand cette top, donc Mango, fait appel à des pouvoirs un petit peu particuliers,
fait,
qui peuvent faire penser à la force, hein, puisqu'il n'y a pas besoin d'y voir, elle met un casque pareil pour Luke quand il s'entraîne à essayer de développer la force dans le Faucon Millenium avec Obi-Wan. Moi ça m'a fait penser à Star Wars un petit
peu. Alors pas dans le Faucon Millenium, mais je pense à ce moment effectivement il se bande les yeux et quand il est avec Yoda dans son apprentissage avec les galets etc, il commence les yeux fermés puis petit
c'est
à
ça.
Petit, donc évidemment il y a une espèce de force kinétique, de télékinésie à l'œuvre dans mais en même temps il y a aussi, on peut se questionner là-dessus parce que Mango est avant tout une taupe et du coup on se dit que c'est une taupe et qu'elle doit donc porter des verres teintés parce qu'elle ne supporte pas la lumière
soleil,
des projecteurs d'un stade de foot.
Ouais. Alors, on l'a dit, hein, c'est une animation en volume, hein, donc avec des marionnettes très particulières, je dois dire, avec de la laine qui est collée sur ces marionnettes, et le style graphique est vraiment étonnant.
Oui, Trevor Hardy, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec de la pâte à modeler, qui a réalisé un certain nombre de courts-métrages plutôt humoristiques. On a d'ailleurs passé son film de fin d'études Pushkin en ouverture juste avant Mango hier soir.
Il exceptionnel, est passé aussi, hein, très bon court-métrage.
Ouais, humour noir, assez cinglant. Et il était passé par les studios Hardman, donc c'est vraiment quelqu'un qui a de la bouteille dans le domaine de l'animation. Et là, en mettant en scène cet univers animalier avec tout un bestiaire quand même, notamment dans les stades de foot, il a utilisé de la laine pour donner un côté un peu chaleureux à ses personnages. Parce qu'une taupe, c'est pas forcément l'animal le plus glamour qui soit,
non,
a priori, et pourtant, il en fait une véritable mascotte.
Il vaut mieux aussi qu'il mette de la laine que du véritable poil de taupe. Hein.
Oui.
Donc, alors ça parle de foot, d'un conflit social aussi, hein, puisque cette mine va être fermée parce que les mineurs n'arrivent pas à trouver cet or. Ils sont sûrs qu'il y a de l'or, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Et donc, bien sûr, les capitaux financiers, c'est comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'or, eh bien, on ferme la mine, elle est rachetée par quelqu'un d'autre qui va l'exploiter à nouveau avec ses codes à lui, avec sa façon de faire à lui. Et c'est un peu le grand méchant de l'histoire, hein, qui veut racheter cette mine, qui est un chat machiavélique qui peut faire penser à James Bond.
Finalement, ce serait le chat de James Bond. Je ne sais plus s'il apparaît dans Docteur No ou dans Bon Baiser de Russie, mais il y a effectivement ce chat caressé qui devient, dans ce film-là, le grand méchant de l'histoire, qui s'en prendra d'ailleurs à une souris en la faisant passer dans des plantes carnivores, etc. Mais sur la question financière, en fait, c'est quand même une dynamique assez complexe qui est mise en œuvre, je trouve, par Trevor Hardy, qui épargne pas les explications. Enfin, il réussit à simplifier la situation sans qu'elle soit simpliste, à nous ramener ou à évoquer un peu en filigrane l'Angleterre des années Thatcher et les fermetures des mines et les grèves qu'elle avait entraînées. Donc ici, c'est pas une mine de charbon, c'est une mine d'or, mais c'est tout comme, et il y a une fierté industrielle.
Une fierté familiale aussi. Hein.
Oui, évidemment. Alors, il faut savoir que Trevor Hardy s'est pas mal inspiré de son histoire personnelle pour cet aspect transmission, puisque il vient du sud de l'Angleterre, près de Brighton, et ses parents avaient un pub. Il a grandi dans un pub, dans une fratrie. Ils étaient trois, et en fait, son frère et sa sœur ont décidé de reprendre le pub, et lui avait toujours refusé de se plier à la tradition familiale, et il se voyait pas du tout comme patron de bar, et donc il a poussé pour faire de l'animation. Il se retrouve assez bien dans ce personnage de Mango.
Alors, on l'a dit, c'est un film d'aventure, c'est un film qui parle de conflit social, c'est un film où il y a l'humour qui est omniprésent aussi, d'ailleurs un humour un peu pipi-caca des fois, il faut oser le dire, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un travail sur les expressions, sur des phrases, sur des quiproquos, c'est quand même très riche au niveau humoristique, et au niveau de l'écriture, c'est pas rien. Et donc il y a bien sûr cette chronique sociale dont on vous parlait, mais il y a aussi le foot, et le foot est très présent aussi dans ce film, avec une petite erreur. Moi, j'ai quand même alors je sais pas si
L'erreur, c'est que l'Angleterre gagne la Coupe du Monde.
Non, alors ça c'est ça peut être une erreur, voilà, c'est pas ça, c'est que il rencontre un club de foot allemand, puisqu'on parle de Munich pendant la Coupe du Monde.
Alors, j'ai vu le film dans sa version originale anglaise, et ils font pas référence.
On parle d'équipe de l'Allemagne.
Oui, on parle de l'équipe allemande. Donc, c'est peut-être une erreur de traduction. Il faut savoir que la partie football, elle est pas, c'est pas un travail d'auteur de la part de Trevor Hardy. Ça a été apporté par ses co-scénaristes.
Lui, il est pas très fan de foot. C'est pas un univers qu'il connaît.
Pas vraiment. Non, c'est pas quelque chose qui l'a attiré. Après, pour revenir sur tout l'aspect humoristique et les subtilités ou non d'écriture, moi je pense que c'est un film qu'il faut prendre un peu comme un paquet de bonbons, et du coup il y a une grande générosité de la part de son auteur qui nous donne un film quand même très sucré et acidulé, mais avec une telle profusion d'humour sous toutes ses formes qu'on ressort assez repu quand même.
Ouais. Comme tu le dis, dans une poche de bonbons, il y a ce qu'on aime et ce qu'on aime un peu moins. Donc on prend en priorité ce qu'on aime.
Là, on sent que c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de cours et à qui on a donné la possibilité de faire un long.
C'est son premier long métrage.
C'est son premier long métrage. Et donc il a voulu le remplir de beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires, beaucoup de gags.
Et ça sera le mot de la fin, puisque cette émission est déjà terminée. Une heure, ça passe très très vite. On était en direct du festival L'Étoile Filante à Pessac. C'était la 15e édition. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine émission de cinéma, tout simplement, puisque ça sera vendredi soir, entre 19h et 20h. Le Miroir, comme toutes les semaines, sur Radio Campus Bordeaux. Salut à tous.
Salut.
Salut.